La parole vient de toi,
et c'est toi qui nous enseigne. Tu nous enseignes
à partir de ce que tu es.
Tu nous enseignes
à partir de ce que nous sommes
et de tout ce que tu nous fais devenir grâce à toi. Nous sommes toujours meilleurs que nous ne le pensons parce que, au fond de notre cœur, vit ta présence. Aide-nous à la redécouvrir. Aide-nous à revivre chaque jour cette merveille de la création. Tu nous fais venir à la lumière, à ta lumière. Fais que cette lumière nous prenne tout entier, tel que nous sommes, et nous fasse découvrir de plus en plus que nous sommes lumière. Comme le dit le psaume, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est le soleil qui nous fait découvrir les réalités profondes et il plonge jusqu'au plus intime de nos cœurs. Donne-nous de le redécouvrir sans cesse avec un nouvel émerveillement. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, notre Seigneur, qui vit avec toi et avec nous dans la communion de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen.
On a annoncé le chapitre 12 de la Genèse et suivant, mais il faut bien faire un petit coup d'œil, un clin d'œil aussi, à ce que nous avons vu la dernière fois, parce que le début de la Genèse, les 11 premiers chapitres de la Genèse, nous donnent les clés indispensables pour lire la suite. Je dois vous dire que je ne sais pas jusqu'où nous arriverons. Arriverons-nous jusqu'au chapitre 50e? Je n'en sais rien du tout. Pour la bonne raison que se mettre en marche avec Abraham, c'est ne pas savoir où l'on va. La première chose. Et elle est très importante. Si nous savions où nous allons, nous n'aurions pas besoin de lire l'Écriture. L'Écriture nous mène toujours au-delà de nous-mêmes, et donc c'est dans cet au-delà que nous savons. Mais où s'arrête-t-il? Toujours plus loin que nous ne pensons. Et donc, à partir du chapitre 12e, nous allons essayer de suivre ce chemin des patriarches, en nous posant les questions innombrables que le texte pose. Nous en avons aussi à poser des questions, mais nous commencerons par écouter celles que le texte pose, et vous verrez que ça remplit déjà beaucoup de temps. Peut-être qu'il restera place pour les nôtres. Les bonnes questions viennent du texte. Les mauvaises, généralement, viennent de nous. Enfin, il faut bien passer aussi par les mauvaises pour découvrir les bonnes. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer d'abord dans ce temps avant la pause. Je vais commencer par reprendre quelques clés importantes de ce que nous avons vu dans les chapitres 1 à 11 de la Genèse l'an passé. Comme M. Glorieux vous l'a dit tout à l'heure, bon, on a parlé de la création. Et généralement, nous mettons la création au début, au commencement.
Au commencement de quoi?
Commencement. Pour un commencement. Au commencement du créé. Nous avons vu qu'il y avait différentes interprétations et toutes sont bonnes. Nous pouvons les rencontrer. Ça peut être maintenant le commencement. La création, c'est de maintenant qu'il s'agit. Mais nous le mettons le plus loin possible dans notre mémoire et dans la mémoire de l'humanité, parce que pour nous, le commencement, c'est le départ de toute réalité. Et ce n'est pas faux.
Ce n'est pas faux.
Parce que
ce qui est notre commencement à nous,
l'est aussi de tout homme, l'est aussi de toute l'humanité.
Et nous avons vu
que dans ce commencement tel que la Bible le racontait. Ce qui est important, bien sûr, c'est ce qui est dit. Mais ce qui est dit l'est toujours avec beaucoup d'images, beaucoup de symboles. Il nous faut redécouvrir, parce que nous sommes loin de textes comme ceux-là. Loin pas tellement. Ce texte date de 2500 à 3000 ans d'ici. Pas encore tellement énorme. Mais enfin, c'est toute une distance culturelle et c'est toute une imagination que nous avons à redécouvrir à travers ces 2-3 millénaires. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête, ces gens-là, lorsqu'ils écrivaient? Quelle mémoire avaient-ils? Certainement pas la même que la nôtre, mais ils avaient toute une mémoire qui avait été colportée longuement, d'abord par d'autres qu'eux, puisque ces textes viennent du plus lointain des temps, depuis les 3e ou 4e millénaire avant Jésus-Christ, qu'ils sont nés en Mésopotamie ou dans les environs, hein, là où est le berceau de notre civilisation,
à Ur en Chaldée.
C'est de là qu'est partie l'histoire, c'est de là qu'est partie l'écriture. La civilisation a remonté l'Euphrate, s'est installé quelque temps aux alentours des sources de l'Euphrate, et puis de là, elle a débordé en redescendant par le sud, dans la plaine, la montagne et la plaine du Liban actuel, et puis d'Israël jusque vers le Néguev. C'est ainsi que l'on présente Abraham. Abraham est le fils de civilisation voisine. Il est fils de toute une civilisation qui sera la nôtre, bien entendu, mais à ce moment-là, le berceau, c'est le Golfe, le nom de l'Irak. Et pour nous dire tout cela,
pour nous dire
que la révélation est emprise sur une réalité simplement humaine,
que la révélation est déjà présente dans la réalité humaine,
qu'il faut relire d'une certaine manière. On nous présente 11 chapitres au début de la Genèse pour nous dire ce qu'est l'homme, comment on voit l'homme dans le Proche-Orient ancien. Comment on voit l'homme ? Quelles sont les questions que l'homme se pose ? Et quand l'homme naît, il découvre un monde déjà là. Le monde est présent. C'est-à-dire, il y a de l'eau, il y a un ciel, il y a un jour et une nuit, car il y a de l'espace, il y a du temps. Comme l'homme sort du sein maternel, il découvre cela, il découvre l'espace, il découvre le temps. Et il découvre des rochers, de la végétation, il découvre des animaux, il découvre d'autres hommes. C'est la découverte que tout enfant fait. Et c'est aussi la découverte que nous faisons quand nous relisons la Bible, nous redécouvrons notre environnement, comme on dit aujourd'hui. Et voilà, la création, c'est la découverte de l'environnement. Je découvre que ça, tout cela est avant moi. Je découvre tout cela comme un avant, un devant moi. Et comme les gens qui ont écrit cela sont des gens très pieux, et qu'ils célébraient un jour saint le Shabbat, le jour du Shabbat, ils ont vu cela, évidemment, suivant l'ordre d'une semaine qui se termine par un Shabbat. Il y eut d'un soir, il y eut d'un matin, premier jour, deuxième jour, etc. C'est notre vie quotidienne qui est exprimée par là, dans ce premier chapitre de la Genèse. C'est l'homme qui redécouvre son monde. Ce premier chapitre de la Genèse a été écrit vraisemblablement assez tardivement, hein, après l'exil, semble-t-il, donc il date tout au plus du 5e siècle, dans la forme qu'il a prise ici. Mais il s'inspire, bien entendu, d'autres sources beaucoup plus anciennes et qui viennent d'ailleurs. Il est très important de voir que la Bible utilise tout cet ailleurs.
Il y a beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans notre monde, ailleurs que la religion, ailleurs que la relation avec Dieu, et tout cet ailleurs fait partie de la création de Dieu. Donc tout cet ailleurs porte aussi la trace, ou l'étincelle, la présence de Dieu. C'est donc ce que veut nous dire le début de la Genèse, que nous appelons le premier récit de la création. Cette création que je refais chaque matin, que je redécouvre chaque matin quand je m'éveille. Je redécouvre chaque matin cet ailleurs. Le monde a vécu pendant une nuit, le monde, et je le retrouve. Avec quel regard ? La question qui se pose. Ici, ce livre a été écrit pour nous montrer qu'il y a moyen de regarder cela avec un regard différent. Un regard autre, comme nous disons aujourd'hui, on aime bien ce qui est autre, et peut-être avec le regard de l'autre, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Je redécouvre mon monde dans le regard de Dieu, dans le regard de celui qui l'a fait et celui qui le fait. Et j'en suis le bénéficiaire, car j'arrive au bout. J'arrive au bout de tout un long chemin. Le chemin existe bien avant que je ne me mette en route. C'est un peu ce que nous dit le texte. Dieu créa l'homme à son image. Quand nous créons quelque chose, nous mettons toujours notre empreinte sur ce que nous créons. Que ce soit une peinture ou une soupe. Quand nous créons quelque chose, il y a quelque chose de nous qui passe dedans. Dieu créa l'homme, l'humain, Adam, à son image. À l'image de Dieu. Il le créa. Il y a une distance entre l'homme et Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. C'est comme si Dieu prenait du recul par rapport à ce qu'il vient de créer. Il répète, mais on ne répète pas simplement pour répéter, pour redire la même chose. Quand on répète, c'est toujours pour souligner et pour dire quelque chose d'autre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. L'homme est un, comme Dieu est un, puisqu'il est à l'image. C'est ce que l'on dit. Homme et femme, il les créa. Non, nous avons vu l'an passé, c'est pas homme et femme, c'est masculin et féminin, mâle et femelle, si vous voulez. On arrive du monde animal, et dans le monde animal, et déjà dans le monde végétal, il y avait des arbres, des plantes avec leurs semences, en semence, en semence. Mais la fécondité était déjà en route. Dieu crée et il donne aux êtres qu'il crée de continuer à créer. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, et femelle, ou masculin et féminin, il les créa. Dès que Dieu crée, on est en vis-à-vis. On est en vis-à-vis avec Dieu, on est en vis-à-vis entre l'homme et le monde. On est en vis-à-vis entre la terre et le ciel, on est en vis-à-vis jour et nuit. Dès qu'on crée, il y a vis-à-vis. Il y a autre, autrui. Mâle et femelle, il les créa. Comme les animaux. Oui, parce que l'homme est aussi quelque part animal, mais pas définitivement. Il y a une promesse d'hommes et femmes, mais c'est une promesse. Et nous verrons au chapitre 2, nous allons voir tout de suite, que cette promesse va se réaliser. Il n'y a homme et femme que quand je peux dire tu à quelqu'un. Je par rapport à tu. Sinon, ça reste encore indistinct. L'animal ne peut pas dire je à tu à son partenaire. Et donc c'est l'homme qui va se créer face à la femme, grâce à ce que Dieu a mis en lui. L'image, homme et femme, il le crée. Et effectivement, Dieu les bénit. Ah, voilà, nous entrons dans l'ère de la bénédiction. La bénédiction, dans la Bible, est toujours un don de vie. C'est très important. Le don de vie. Donc c'est un don d'abord, et c'est une vie. C'est pour ça que c'est sacré. La vie est une présence de Dieu. Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, et il s'adresse à un pluriel, soyez féconds, multipliez, hein, masculin et féminin, remplissez la terre et soumettez-la. Il y a toute une tâche qui nous est donnée par là. Une loi, si vous voulez. La loi de fécondité, la loi de domination de la terre, pas n'importe quelle domination de la terre, pas pour en faire n'importe quoi, pour les, comme on dit aujourd'hui, les finaliser. C'est-à-dire pour leur donner d'être ce qu'ils sont, comme Dieu. Une puissance de co-création, on crée avec lui. Et on domine tout, la mer, le ciel, les animaux qui rampent sur la terre. Et il ne donne pas seulement la domination, la fécondité, mais il donne encore à manger. Il donne aussi le menu. Hein? Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. Et on introduit ici déjà le fait de manger. Et manger, c'est extrêmement important dans la Bible. Prenez, mangez, ceci mon corps. Manger. Manger, c'est s'approprier. Manger, c'est un instinct de possession. Je possède les choses. Je me les approprie. Manger fait partie de toute la réalité économique. Mais je mange pour conserver la vie qui est donnée. La vie qui est donnée se reproduit. Elle se donne par reproduction. Soyez féconds, multipliez. Et elle se nourrit. Elle se nourrit par ce qui se trouve avant nous, le végétal et le fruit. L'homme est d'abord un frugivore, nous avons vu qu'il était végétarien d'abord, et même semble-t-il végétalien tout à fait, et ce n'est qu'après, après le déluge, qu'il va devenir carnivore. Vous voyez, le menu vient en différentes étapes. Et il en fut ainsi. C'est extraordinaire ça, hein? Il en fut ainsi. Quand Dieu dit quelque chose, il en fut ainsi. Mais pas évident, hein? Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, vous voyez le regard de Dieu, il vit tout ce qu'il avait fait, ça a été très bon, surtout quand il a fait l'homme, avant c'était bon tout simplement, une fois qu'il a fait l'homme c'est très bon. Découverte du monde dans le regard de Dieu, c'est très bon. Peut-être avons-nous un autre regard sur les choses, mais voilà le regard qui nous est proposé. Telle fut la genèse du ciel et de la terre dans leur être créé. C'est la genèse de mon ciel et de ma terre dans mon être créé. Je suis en route. Je me suis levé le matin, J'ai redécouvert mon monde, je l'ai découvert sous le regard de Dieu, et me voilà parti. Parti pour dominer, mais d'une domination reçue. Pas d'une domination que j'impose, d'une domination reçue. Maintenant que l'ouverture du livre, et que cette ouverture va très loin, et vous voyez que c'est le monde aujourd'hui. Lorsque nous lisons la Bible, la première question qui doit nous faire réfléchir, c'est pourquoi il raconte les choses comme ça? Nous, on raconterait autrement. Pourquoi il raconte les choses comme ça? Et c'est d'entrer dans ce « pourquoi il raconte les choses comme ça » qui va nous faire grandir, qui va nous faire découvrir une autre manière de lire que la nôtre habituelle. Et qui semble, bon, je ne sais pas si elle est meilleure, mais elle est en tout cas grossie de toute l'expérience de tous ceux qui ont lu avant moi. Toutes les lectures sont présentes dans ce texte, puisque ce texte est fait pour être lu. Et quand je le lis, moi-même, il est gros de toutes ces lectures qui ont été faites, et qui existent, qui ont existé, qui existent encore. Et je réactualise toutes ces lectures. Mais à partir du texte, puisque c'est le texte qui, à chaque fois, suscité, nourri ces différentes lectures des hommes, des femmes, des enfants qui nous ont précédés. Telle fut la genèse du ciel et de la terre dans leur être créé. Si c'est quand ils furent créés, je lis ça dans mon texte ici, mais l'hébreu est plus précis. Dans leur être créé. Et dans leur être créé, c'est précisément la genèse, la mienne, celle des autres. Et voilà une aventure passionnante à découvrir. Cette genèse, qui n'est pas encore achevée. Nous sommes toujours dans le commencement. Et puis vient ce qu'on appelle le second récit de la création. Donc le premier récit de la création, on peut dire le monde, ce que nous appelons le monde. Mais ce monde a une finalité, puisqu'il est la finalité, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu, et l'image de Dieu étant jusqu'ici exprimée par le masculin et le féminin. Nous ne savons pas encore très bien ce que c'est. Enfin, c'était déjà présent chez les animaux, donc en tout cas ça vient d'en bas. On n'a pas été plus loin, mais c'est un envoi, c'est une ouverture, comme je vous le disais tout à l'heure. Et maintenant, on va se poser quand même des questions sur ces Adam, sur ce Adam, qui veut dire homme, mais qui veut dire humanité, qui est à la fois un singulier et un pluriel, ou singulier et pluriel. Qui est cette réalité qu'on appelle Adam, homme ? Là, il faut le découvrir d'un peu plus près. Et on va le découvrir en quatre étapes. La première étape étant les chapitres 2 et 3. Donc ça, c'est le premier chapitre. Chapitre 1. Le chapitre 2 et 3. On va découvrir précisément l'homme et la femme. L'homme, Adam, c'est homme-femme. Image de Dieu. Image de Dieu à réaliser. Donc l'image de Dieu, Dieu qui est unique, c'est, dès le départ c'est comme ça, il n'y a pas des dieux, il n'y en a qu'un. L'image de Dieu qui est unique se réfracte de manière double, comme femme. Et effectivement, quand je me lève, je vois que nous sommes constitués d'hommes et de femmes. De femmes et d'hommes. Et que ça fait partie de la même réalité humaine. Comment ça va entre hommes et femmes? C'est pas toujours lisse. Ça va pas toujours très bien. Il y a des problèmes. Des problèmes de rencontre, des problèmes de compréhension, des problèmes de vie ensemble, des problèmes de cohabitation, des problèmes de bonheur, des problèmes de naissance, des problèmes d'éducation. Oui. Ça pose quantité de problèmes, homme-femme. Donc il faudrait essayer de réfléchir quelques minutes sur les problèmes que ça pose. Homme-femme. Normalement, ça devrait bien s'entendre et ça s'entend pas toujours bien. Comment ça se fait? On a la même origine, on devrait avoir la même fin, le même but. Il y a des problèmes de ce côté-là. Et probablement que la Bible, tout entière, depuis le début jusqu'à la fin, on va nous parler de l'homme et de la femme, d'un bout à l'autre. Mais d'abord et avant tout, dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement. Mais on va tout le temps parler de cela. Parler de cette réalité, la faire découvrir, et voir les vicissitudes de l'être homme-femme à travers ce que nous appelons l'histoire. Il y a quand même un autre problème aussi qui va surgir. Pas tout de suite. Il va surgir précisément à propos du premier commandement qui est fait, du commandement de donner la vie, de la fécondité. Et c'est le problème des frères. Un autre type de relation. Ce n'est pas la relation homme-femme, c'est la relation au même niveau, du même homme et de la même femme. Bon, il y a des frères ou sœurs. Il y a aussi des problèmes. Ils viennent quand même du même endroit, du même lieu, du même ventre maternel. Et pourtant, ça se bagarre. Ça se tue même. Chapitre 2 et 3, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Ici, c'est une mort violente. Et curieux, après cette mort violente, on vous parle de la descendance de Caïn et de la descendance de Seth. Il va remplacer Abel qui est mort. Et puis on vous parle, après tous ces frères, donc il y a des descendances. Mais on parle des patriarches, ceux qui ont vécu longtemps, avant le déluge. Pourquoi ça vient là, ce texte? Pour montrer qu'il y a quand même, à travers ces vicissitudes qui tournent parfois très mal, puisque elles vont jusqu'à la mort, il y a une vie qui continue. La mort n'arrête pas la vie, n'arrête pas se croiser, multiplier, remplir la terre et fruiter. Et pourtant, la mort, ça peut aller très loin. Très loin. Parce que, à partir du chapitre 6, jusque au chapitre 9, vous avez ce qu'on appelle un troisième problème, 6 à 9. Donc ça c'est le patriarche, c'est le chapitre 5. 6 à 9, un autre problème. C'est le problème des générations et des sociétés. Un problème très présent. Entre père et fils, deux générations différentes, est-ce qu'on se comprend toujours? Et si on descend d'une génération encore plus? Et puis, avec le voisin, c'est pas non plus évident. Donc il y a tout ce problème de société, ces problèmes de société, qui surgissent immédiatement. Donc, il y a le problème de l'homme et de la femme, le problème matrimonial, le problème du frère, le problème fraternel, le problème problème des sociétés qui s'exprime par des conflits de génération. Et ces conflits de génération semblent aller à la ruine totale même. Cette ruine totale étant symbolisée par le déluge. Tout va disparaître. Il semble que la violence soit tellement forte qu'elle peut faire disparaître l'humanité entière. Problème encore très actuel. Ce n'est pas un problème d'autrefois, ce sont des problèmes que nous rencontrons tous aujourd'hui. Problème de l'homme-la femme, problème des frères, le problème des générations. On va tous se tuer, on va tous se manger les uns les autres. Terrible. Ah, il y a un moyen d'en sortir. La négociation, la parole. Si on parle, on peut éviter la violence. Hein, nous savons tout ça. Des pourparlers. Et on parle souvent très longtemps. Même quand on n'a pas beaucoup de temps, on parle la nuit. Et effectivement, on ne se comprend pas toujours. Au chapitre 11, 10, ça, ce sont également les descendances. La vie continue, hein? On pense que la mort va arrêter la vie? Non. Même après le déluge. Il y en a qui échappent. Signe que tout le monde échappe. Mais il y en a qui. Il y en a qui, c'est toujours le signe de... Pourquoi eux? Parce que chacun doit comprendre, nous aussi. C'est pour ça qu'il y a... Si tout le monde faisait exactement la même chose, nous resterions dans le grand magma. Et il y en a qui ne font pas exactement la même chose. Et donc ils sont les chefs de file pour qu'on les suive. C'est pour les autres, c'est toujours une mission. Nous allons voir chapitre 6 à 9 et 10. Et puis nous avons ce fameux chapitre qui est le conflit des langues. Nous savons ce que c'est, hein? Les langues et les pays. On parle des langues différentes. Il suffit de nous écouter parler à deux pour voir que quand nous parlons à deux, nous parlons au moins deux langues différentes. Au moins deux. Parce que chacun met dans les mots des réalités que l'autre ne voit pas. Pourquoi? Parce que les mots sont toujours une expérience humaine. Et donc il faut prendre acte. Et quand on veut supprimer ces différentes nuances, ces différentes langues, quand on veut supprimer les différences, on nivelle, on coupe les têtes ou les pieds, on tronçonne. Et l'homme n'est plus homme. Et pour qu'il découvre vraiment son humanité, il doit découvrir aussi son altérité. Je suis autre que les autres, et les autres sont autres que moi. Et oui, c'est toute une expérience humaine profonde qui se donne à travers ces 11 chapitres. Et nous n'aurons jamais fini de lire ces 11 premiers chapitres de la Genèse, parce que c'est constamment notre histoire. L'histoire de nos conflits, y a-t-il moyen de les surmonter, entre l'homme et le monde? Est-ce que c'est en mangeant le monde, en l'utilisant sans frein, que l'homme va dominer le monde? Première question, et vous voyez, la toute première question est une question écologique. Deuxième question, c'est la question homme-femme. Égalité, disons-nous. Égalité des sexes. Et égalité, si on veut parler d'égalité, il faut parler de distinction immédiatement. Il ne peut y avoir d'égalité que dans la véritable distinction, que chacun soit ce qu'il est. Et tout vouloir égaliser, c'est réduire plus petit comme un dénominateur, c'est-à-dire à pas grand-chose. Au contraire, il y a à se faire vivre l'autre. L'autre est pour nous la question fondamentale. Et dans la Bible, et, oui, à travers toute la Bible, pratiquement je ne découvre l'autre avec un grand A, c'est-à-dire Dieu, et à travers l'autre, l'autre sexe. L'autre qui me renvoie à l'image de moi-même est différente. Frère, frère, c'est l'autre dans le même. C'est l'autre, mais à l'intérieur du même. Même père, même mère. Et là, d'ailleurs, c'était déjà présent dans le premier, il y a l'apparition de quelque chose d'important que nous appelons généralement la jalousie. La jalousie, c'est précisément ne pas vouloir accepter que l'autre soit autre. Vouloir avoir ce que l'autre a, vouloir être ce que l'autre est. Et c'est exactement le contraire de la distinction. Quand Dieu crée, il distingue tout le temps les choses. Il sépare pour montrer qu'il y a une distinction. Il ne faut pas tout mettre dans le même magma. Si tout le monde était tout le monde, il n'y aurait plus personne. Il faut que chacun soit chacun. Et pour que chacun soit chacun, chaque un, chaque unique. Et la jalousie intervient déjà ici, mais elle intervient à partir de la réalité du monde. On dirait que l'esprit du monde, qui va se situer dans le serpent, qui est le plus nu de tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créé, le serpent insuffle la jalousie dans nous. Ça veut dire que la jalousie ne vient pas uniquement de nous. Elle vient aussi d'un certain regard posé sur le monde. Un regard autocratique. Un regard qui veut que le « je » soit tout. Je veux l'autre. Et qui n'accepte pas sa limite. Alors, ça c'est un gros problème. Un problème pour l'homme et la femme, accepter que la vie de l'autre commence où ma limite est posée, où je finis. Et donc c'est important parce qu'il me continue. Si l'autre a quelque chose, c'est pour moi aussi. Aussi. Pas pour moi tout seul, pour moi aussi. Mais il y a un vouloir se faire Dieu ou un vouloir être l'autre ou un vouloir avoir l'autre qui est en nous et qui vient justement de la conscience de notre limite. Or, c'est ça qui va nous faire progresser, c'est la conscience de notre limite. Découvrir la limite, on l'a vu l'an passé, découvrir la limite, c'est toujours découvrir l'au-delà de la limite. Parce que c'est là où la limite fait mal que commence mon être plus. Là où je sens ma limite, qu'il y a une puissance d'expansion dans l'autre, que l'autre m'apporte quelque chose. Mais il faut recevoir. Il faut recevoir. Recevoir. Ce don qui commence au départ et qui est tellement difficile à réaliser, parce que recevoir est un problème étonnant. D'abord, j'ai reçu la vie, mais je voudrais faire comme si je ne l'avais pas reçue et je voudrais me la donner à moi-même. Me faire moi. Mais je ne peux me faire moi qu'à partir de ce que j'ai reçu. Je ne peux pas me faire n'importe quoi. Mais c'est découvrir toutes les virtualités qui sont en moi comme toutes les virtualités qui sont en autres. Dans les autres, et les faire vivre, les aider à vivre. La jalousie qui s'installe. Et vous aurez remarqué que dans ce texte, ils offrent tous les deux un sacrifice, donc ils donnent tous les deux. Ce qu'ils ont reçu, ils le donnent. Ils l'offrent. Ils ont déjà compris beaucoup de choses, ces deux frères. Caïn, la possession, J'ai possédé un homme de par Dieu, dit Ève, quand elle le met au monde. Et, ah ben, le souffle. Et rien. Il n'est rien qu'il est que le frère de l'autre. Difficile à vivre quand le frère ou la sœur sont célèbres. Hein. On est toujours appelé le frère d'eux. Ah, vous êtes le frère d'eux, vous êtes la sœur d'eux. On n'est rien qu'en soi-même. Hevel. Ah ben, bué. Hevel avalim. Kol havanim. Tout est vanité, dit Kohelet. Vanité des vanités, tout est vanité. Le frère. Qu'est-ce que le frère? Est-ce que c'est une ombre de l'autre? Une buée de l'autre? Ou est-ce qu'il a sa propre personnalité? Même une buée semble être de trop. Supprimée. Et on voit que la jalousie entraîne la violence. Violence vis-à-vis de l'autre ou violence vis-à-vis de soi, c'est pareil. C'est toujours la même violence. Violence pour supprimer. Ou soi ou l'autre. Donc, supprimer, c'est faire comme si je n'avais pas reçu. Je peux offrir, mais je ne peux pas supprimer. C'est pas pareil. Mais, dans le texte, on ne voit vraiment pas pourquoi Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Il y a quelque chose de bizarre, là. Ce Dieu semble être tout à fait arbitraire. Nous allons voir, ça va revenir constamment. Si je reprends tous ces passages, c'est parce que tout ceci va être repris tout le temps. C'est le début des séries. Et à travers toute la Bible, il y a des séries. Et il faut chaque fois remonter au commencement de la série pour la comprendre. Et d'où l'importance du commencement. Ici, c'est le commencement de la jalousie. Hé, il y a une bête qui est tapie à ta porte et qui est prête à sauter sur toi. C'est comme ça que l'envie, la jalousie est indiquée dans le texte. Une bête. Il y a du bestial en toi. Il y a encore de l'animal en toi. Et si tu ne le domines pas, ben c'est lui qui va te dominer. Si tu ne domines pas cette puissance animale qui est en toi, tu vas vouloir tout manger. Y compris ton frère. Et c'est ce qui se passe exactement. Mais la vie va quand même passer à travers. Et il va y avoir un sorte de remplaçant. On ne remplace pas un être, mais quelqu'un qui va prendre le relais. C'est plutôt cela. Il va prendre le relais de la vie et l'amener plus loin. C'est pourquoi on va voir les deux descendants, descendants de Seth et la descendance d'Abel. Autrement dit, il y a des familles d'êtres. Il y a le nomade et le sédentaire, c'est bien entendu ce qui est au départ de cette mise en scène de Caïn et Abel, il y a le nomade et le sédentaire qui vivent différemment. Le nomade n'a pas nécessairement à devenir sédentaire, et le sédentaire à devenir nomade. Laissons l'autre vivre et laissons-le dans son rapport à Dieu. Dieu est libre. En termes humains, Dieu est arbitraire. Non, il est libre. Alors, regardez-le comme vous le... Si vous le regardez comme arbitraire, c'est que votre regard est déjà d'une manière ou d'une autre jaloux. Pourquoi l'autre? Et l'autre peut dire, pourquoi moi? Merci l'autre, merci moi. Et vous voyez, c'est un gros problème, hein? On n'y arrive pas. Et si on vous montre Caïn et Abel, c'est parce qu'il y a des guerres fraternelles. Fratricide. Ici, la réalité homme-femme était reprise à d'anciens mythes, avec l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, c'est-à-dire la conscience, et avec l'arbre de vie, c'est-à-dire une vie qui serait, au fond, celle de Dieu. Elle m'est donnée, mais elle m'est donnée. Je ne peux pas mettre la main dessus. Elle m'est donnée. Très différent. Je ne suis pas maître de la source. Ici, en réalité fraternelle est décrite dans quantité de mythes également, des mythes fraternels. Donc tout ça sont des réalités humaines. Il n'y a encore rien de spécifiquement révélé là-dedans. Je dis spécifiquement. Ça fait partie du chemin de la révélation, mais il n'y a encore rien de spécifiquement révélé. Deux problèmes psychologiques, humains, tout simplement. Et puis il y a les problèmes sociaux, les problèmes entre générations. Nous voyons que la violence qui commence avec Caïn se poursuit et qu'elle prend des allures étonnantes, la spirale de la violence, hein, comme le dit Jean-Pierre Camara, la spirale de la violence, elle se grossit de plus en plus. Plus les peuples sont nombreux, plus les armes sont sophistiquées, plus on se tue, plus on se massacre. Et sur ce plan-là, il n'y a pas de raison pour que ça finisse. Une fois que la jalousie est engrenée, elle fait son chemin dans le monde. Et ça va tout périr, hein? Déluge. Sauf, si au lieu de se mettre à ce niveau horizontal, on pointe le périscope vers Dieu. C'est large. Si on se met dans un petit caisson, si on s'emprisonne en quelque sorte, si on s'emprisonne dans une certaine protection, protection du déluge, protection de la violence.